Alors, un bon dimanche à vous tous. Et pour ces beaux chants, Mickaël et toute son équipe, tellement apprécié les chants qui nous transportent, donnent un avant-goût du ciel. J'aime toujours dire cela parce que ça vient me chercher les beaux chants qu'on chante pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, bien content de vous annoncer, nous avons une toute nouvelle série pour vous qui s'intitule, comme vous pouvez voir à l'écran, « Choisir de grandir » et « 5 façons d'y parvenir ». Et quand nous parlons de grandir, vous savez, on peut grandir de façon différente. La Bible parle de « croître dans la grâce », alors on peut grandir en devenant de plus en plus gracieux envers nos frères et nos sœurs. On peut aussi grandir dans notre amour les uns pour les autres. Mais lors de cette série, nous voulons focaliser sur la foi. Comment je peux avoir une foi qui est plus grande, chemin faisant, ici-bas sur la terre, une foi plus grande en notre Dieu. Et quelqu'un qui possède une grande foi, vous allez être d'accord avec moi, et quelqu'un qui est en train de grandir. On pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que la foi est importante? J'aimerais vous dire que face à Dieu, la foi est extrêmement importante. Vous n'avez qu'à considérer sa réaction face à la foi. Si vous vous rappelez justement des enfants d'Israël que Dieu a sortis de l'Égypte, qui les a fait traverser le désert, et combien de fois nous voyons ce peuple-là qui ont connu justement la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, les soins de Dieu, nous les voyons avec une foi qui est quasiment inexistante. Et comment est-ce que Dieu réagit à cela? Mais Dieu, on lit souvent, s'irrite. Dieu se met en colère, la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alors nous voyons comment est-ce que la foi, comme on peut dire en bon québécois, vient chercher Dieu. Et quand c'est non existante, on voit comment est-ce que Dieu réagit. Et nous allons voir pourquoi dans un instant. Nous pouvons aussi avoir peu de foi. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Simon-Pierre, qui est allé vers Jésus pour marcher sur les eaux, et qui a détourné ses yeux du Seigneur, et qui a regardé justement les vagues et le vent, et il a commencé à caler. Et là, il a crié, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus, dans sa compassion, sa grâce, l'a tendu la main, il a sorti des eaux. Mais il y avait une reproche. « Homme de peu de foi. » Pourquoi as-tu douté? Alors, c'est important, on voit ici que quand on a une petite foi, ce n'est pas très, très, très luisant. Mais en ce qui concerne la grande foi, on voit comment est-ce que Dieu s'émerveille devant une grande foi. Et nous avons aussi l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre, ce centurion qui avait un serviteur qui était malade. Et là, il y avait justement des serviteurs qui sont allés voir Jésus pour dire, venir guérir le serviteur. Et là, le serviteur a dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin de venir sous mon toit, juste dire un mot et mon serviteur sera guéri. Et comment est-ce que Jésus a réagi? Jésus a admiré la foi de cette personne. Il dit, je n'ai jamais vu un aussi grand de foi en Israël. Alors, nous voyons que notre foi est importante aux yeux de Dieu. Quand c'est non existante, et Dieu n'est pas content. Quand c'est peu, il fait des reproches. Mais quand notre foi est grande, comment est-ce que le Seigneur admire une grande foi? Faire confiance en Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et pouvez-vous imaginer votre vie si vous aviez justement une grande foi face à notre Dieu? Bon, là, j'entends des personnes, et vous savez, on entend souvent cela, parce qu'il y a des disciples qui avaient cette même problématique. Ils sont allés voir le Seigneur, et ils ont demandé au Seigneur, « Augmente notre foi. » Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un petit grain de moutarde, Vous direz à la montagne, transporte-toi d'ici. Puis la montagne, vous obéirez. D'où découle maintenant la dicton qu'on dit, on n'a pas besoin d'une grande foi, mais une petite foi dans un grand Dieu. Alors, y a-t-il une contradiction ici? Moi, je dirais que non. Je pense que la raison pour laquelle le Seigneur a donné cette réponse, c'est parce qu'il disait aux disciples, « Vous devrez commencer tout d'abord à focaliser sur Dieu, avec la foi que vous avez. » Et je peux vous dire que quand vous voyez les œuvres de Dieu peut accomplir dans sa puissance, votre petite foi ne restera pas petite. Quand vous allez voir comment Dieu va agir dans votre vie, cette petite foi, elle va grandir. Alors, on va avoir le même résultat ici, une grande foi, justement, qui fait plaisir à notre Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une grande foi? Pourquoi? Mais je peux vous donner trois raisons. Dans un premier temps, quand on manque de foi, la foi est non existante, en fait, Dieu menteur. Dieu apparaît dans sa parole. Et comme les enfants d'Israël qui refusaient justement de croire en Dieu, c'est comme si on est en train de dire, Dieu vous a parlé, mais ce que tu as dit Dieu, je n'y crois pas. Pourquoi je n'y crois pas? Parce que j'agis pas, je ne mets pas en pratique. Et c'est comme si je dis, parce que je n'y crois pas, mais c'est comme Dieu est menteur. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. Si quelqu'un vous dit quelque chose et vous êtes convaincu que la chose n'est pas vraie, c'est sûr que vous n'allez pas mettre en pratique ce que la personne vous demande. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Quand on n'y croit pas à sa parole, quand nous sommes incrédus comme Israël, c'est comme pour traiter Dieu menteur. Et on voit comment est-ce que ça vient chercher Dieu, comment est-ce qu'il réagit. Le Dieu qui est tellement saint, qui est pur, qui est juste, en qui il n'y a pas ombre de variation, pas de péché. Notre foi, notre manque de foi, notre incrédulité le traite comme il était menteur. C'est le mettre dans le même bateau comme le diable, comme la parole de Dieu nous dit, qui est quoi? Menteur et le père du mensonge. Quand notre foi est petite, un peu de foi, c'est moins pire, mais c'est encore grave. Parce que qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On va abaisser Dieu à notre niveau. Nous sommes des gens de peu de foi, moi le premier. Et quand on a une petite foi, nous avons peu de foi dans ce que Dieu dit dans sa parole, je la baisse à mon niveau. Il y a des choses que oui, ça c'est vrai, mais d'autres choses aussi, j'ai beaucoup de difficultés à croire, même aussi à mettre en application. Si on est honnête, on est comme cela. Et c'est comme si Dieu est comme nous. Mais quand nous avons une grande foi, voilà qu'est-ce qu'on est en train de dire à propos de Dieu. Nous sommes en train de dire à propos de Dieu, on lui donne la place qui lui est due. Tu es digne de notre confiance. Je peux me confier en toi parce que tu es Dieu. Je peux me confier en toi parce que tu es saint. Je peux me confier en toi parce que quand tu parles, Dieu est-il un homme pour mentir? La parole de Dieu nous dit. Et quand nous avons une grande foi, nous sommes en train de donner à Dieu la place qui lui revient. Et ça exalte Dieu. Ça honore Dieu. Et c'est un revirement, justement, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce n'était pas tellement un test d'obéissance quand Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger du fruit. C'était un test de confiance. Et quand le serpent est venu et il a dit, « Dieu a-t-il vraiment dit? » Et quand Ève, justement, a pris du fruit défendu, c'est parce qu'elle était en train de dire que Satan avait mis dans son esprit, « Mais écoute, Dieu n'est pas si bon que cela parce qu'il vous retient quelque chose, ce dont vous avez besoin. » Et Ève était en train, dans sa réaction et dans sa désobéissance, était en train de dire, « Je ne peux pas faire confiance à mon Dieu. » Mais quand nous exerçons une grande foi, nous redonnons à Dieu justement la place qui lui est due. Et ça l'annonce, ça l'exalte, et ça c'est pour sa gloire. Alors, mais Dieu nous connaît. Et il sait que nous sommes faibles. Alors, dans la parole de Dieu, et dans sa grâce, dans sa compassion, il nous vient en aide. Et il nous donne cinq manières, cinq façons, justement, de nous aider, justement, à grandir dans notre foi et aussi de grandir spirituellement. Et le premier, c'est ce que nous allons voir ce matin, les disciplines privées, se discipliner pour grandir. Je n'en parlerai pas là, dans le moment, parce qu'on va y revenir. Mais il y en a d'autres. Le deuxième, nous avons les enseignements pratiques. C'est comme ça a été prié ce matin, on entend la parole de Dieu. On obéit et on voit comment Dieu agit face à notre obéissance, les bénédictions dont il nous comble. Et qu'est-ce que ça fait pour notre foi? Mais on dit que Dieu, on peut lui faire confiance. Parce que quand on obéit, il nous bénit, il envoie justement que Dieu dit vrai. Il y a aussi ce qu'on appelle le ministère personnel. Notre manière de grandir dans notre foi, servir pour grandir. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes chrétien, vous avez un don. Et quand vous mettez votre don au service du Seigneur, vous servez le Seigneur, et vous voyez comment le Seigneur prend ce que vous avez, même si ce n'est pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Comment est-ce que votre don puisse toucher la vie des autres personnes? Et vous vous dites, waouh, Dieu veut m'utiliser, moi? Et ça vient justement vous aider à dire, écoute, je peux lui faire confiance parce que le peu que j'ai, je mets à son service et garde ce qu'il est capable de faire. Ça fait pour grandir. Et les circonstances pivotales ici, ça c'est un peu différent. Dieu, il orchestre les circonstances de notre vie. Il n'y a rien qui nous arrive par hasard. Et puisque Dieu est dans le business, comme on dit en anglais, de faire grandir notre foi, il peut y avoir dans votre vie des circonstances où votre vie va prendre une tournure tout à fait différente. Et qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est des circonstances où il va vous demander maintenant d'exercer une grande foi. C'est de ce qu'on a dit en anglais, outside of the box. Vous savez, on a toujours un cadre. Et c'est un peu comme Simon-Pierre, quand le Seigneur a dit, sortez de la barque, où est-ce qu'il y a la sécurité, et allez en dehors de votre zone de confort. Ça, c'est les circonstances où est-ce que Dieu peut mettre devant vous et moi, qui exige justement une foi hors du commun. Et finalement, il y a les relations providentielles, on les a vues. On a utilisé cela pour démarrer justement nos groupes de connexion, connecter pour grandir, parce que chemin faisant, votre foi, la mienne, va recevoir des coups. Et comme nous avons vu dans le livre de Ecclésiaste, il y a des moments où est-ce qu'on va être tenté de refroidir. Il va y avoir des moments où est-ce qu'on peut tomber. Il va y avoir des moments difficiles où est-ce qu'on va être attaqué. Et notre foi peut subir justement un grand coup, tellement qu'on veut tout lâcher puis tout abandonner. Mais dans ces moments-là, si vous avez fait des amitiés, vous avez connecté, vous avez des personnes qui sont là pour justement prier pour vous, vous aider, vous encourager, vous soutenir, pour que votre foi, comme le Seigneur a dit à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé pour vous faire cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que quoi? Ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Connecté pour grandir. Alors, ce matin, nous allons voir, et si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Et dans les disciplines, se discipliner pour grandir, comment est-ce que, à travers ces disciplines, nous pouvons alors faire augmenter notre foi? Et comme cela, faire plaisir à notre grand Dieu qui est digne que nous lui fassions confiance. Alors, Matthieu chapitre 6, si vous avez vos Bibles avec vous, et je vais lire à partir du verset 1er. Le Seigneur a dit ceci, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc, lorsque tu fais le monde, le Second dit cela, dans d'autres traductions, vous faites un don. C'est juste simplement cela. Ne sonnez pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes et mets à ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Alors voici nos trois disciplines. Lorsque vous priez, lorsque tu fais un don, le premier, lorsque vous priez et lorsque vous jeûnez. Et ce matin, on va se concentrer sur les deux premières disciplines. Le troisième, je peux vous dire que c'est un sujet vaste, et ça prendrait tout un message juste pour traiter cela. Mais quand même, les deux vont nous donner justement ce dont nous avons besoin pour voir notre foi grandir. Alors, la question pourrait se poser, comment se discipliner à travers justement ces trois disciplines? Alors, dans un premier temps, regardez ce que le Seigneur dit. Vous mettez dans le contexte. Le Seigneur est ici en train de parler à ses disciples. Il est sur la montagne. Et là, il parle justement de la façon de donner de l'argent et il démontre justement la mauvaise manière. Il y avait des gens en Israël, ils donnaient l'Israélite pour justement le soutien du temple. Et aussi, il y avait des personnes qui étaient pauvres. Et ça, c'est le contexte ici. Où est-ce que le Seigneur dit, vous avez des personnes qui sont pauvres, et là, vous donnez justement pour aider ces personnes dans leurs besoins. Et il parle de la mauvaise manière de le faire. Il y avait des gens, comme ils disent, ils sonnaient de la trompette devant eux, et on pourrait imaginer la scène où est-ce que, monsieur bienfaitant s'en venait, et là, il y avait la trompette qui sonnait, puis là, tout le monde dit, waouh, il est généreux ce gars-là, waouh, hey, il m'impressionne, waouh, puis ainsi de suite. Le Seigneur dit, non, c'est pas comme ça que vous allez faire vos dons. Vous allez faire de la bonne façon et vous allez faire en privé. C'est pourquoi on appelle ça de discipline privée. Vous allez faire cela justement en privé. Et juste avant d'aller un peu plus loin, quand on parle de discipline, vous savez, ça évoque quoi? Ça évoque quelque chose que nous devrions faire parce que le Seigneur a dit « si vous donnez ». Qu'est-ce qu'il a dit? « Lorsque vous donnez ». Alors le Seigneur s'attend à ce que justement on donne. Mais pour revenir à ce que je parle de discipline, c'est ce que nous sommes supposés de faire, mais d'habitude, c'est pas très agréable au début. Hein? On pense à un enfant qui doit pratiquer le violon, par exemple. Et là, il saute, il vient de l'école, là, il est terminé, mais là, il y a une heure à chaque jour. Il faut qu'il pratique. Et on sait que c'est une discipline. Mais ça peut donner, justement, au début, c'est pas facile, c'est pas une chose amusante. Mais on sait qu'est-ce qui arrive. Avec une discipline, qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Il y a des progrès. Et ce qui commence justement avec quelque chose qui est ardu, qui est difficile, peut devenir plus tard quelque chose dans lequel on trouve un grand plaisir. Et je pense aux athlètes quand ils se préparaient pour les Jeux des Olympiques en Espagne. Il y avait un petit dicton qui disait « No pain, no gain, no spin ». Ça veut dire que Si vous voulez aller aux Olympiques en Espagne, il fallait que ça fasse mal, no pain. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas de défense, no gain, il n'y a pas de progrès. Et s'il n'y a pas de progrès, mais vous n'irez pas en Espagne, no pain. Et c'est la même chose aussi pour les disciplines. Ça peut commencer au début comme quelque chose qui est ardu, mais après ça, le Seigneur s'attend à ce qu'on y trouve plaisir. Alors, revenons à nos moutons. La bonne façon alors de donner en secret. Mais on peut se poser la question. Qu'est-ce que donner? Le Seigneur ici, il parle de l'argent, là. Et qu'est-ce que donner? C'est quoi le rapport avec donner notre foi? Vous savez, on dit souvent, l'argent ne fait pas le bonheur, n'achète pas le bonheur. Mais il faut vous dire une chose. L'argent achète la sécurité. La sécurité, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour nos vêtements, notre maison, notre confort, notre voiture, mettre de l'essence là-dedans, la nourriture, maison, nos vacances. L'argent peut acheter ces choses. Et la problématique, c'est qu'avec cette sécurité, on parvient à mettre quoi? Notre confiance dans ces choses. Ça, c'est la problématique ici. On apparaît justement que quand on a une grande foi, qu'est-ce qu'on est en train de dire au Seigneur? Je te fais confiance. Et le Seigneur sait que nous avons une problématique avec la confiance. Alors, il nous donne une discipline. Vous avez une tendance de mettre votre confiance dans l'argent. Et là où nous avons justement des exemples, il y a justement cette exhortation dans la parole de Dieu pour appuyer ce que je viens de dire. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et ne pas mettre leurs espérances dans les richesses incertaines. » Ça existait à l'époque de l'apôtre Paul. Il y avait des riches qui mettaient leur confiance dans leur argent. Une autre chose ici, nous avons la parabole justement de cet homme que le Seigneur raconte. Où est-ce que les greniers, ça déborde. Il ne sait plus quoi faire avec toute cette richesse. Et qu'est-ce qu'il dit? « Voici, dit-il, ce que je ferai. Je battrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as quoi? Beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. La sécurité. Mange, sécurité. Bois, sécurité. Et réjouis-toi. Hey, la belle vie, n'est-ce pas? Tellement sécure dans ce que l'argent peut procurer. Et vous savez ce que Dieu dit? Insensé. Mais ça, c'est notre histoire. Mais je vais juste pour vous montrer comment est-ce que l'argent peut être pour nous une source de sécurité et qui peut justement détourner nos yeux de Dieu en qui nous devrions mettre notre sécurité. Alors, qu'est-ce que Dieu fait alors? Il dit, tiens, je vais amputer un peu justement de ton argent pour que tu apprennes justement que je suis votre source de sécurité. Ça, c'est ce que le texte est en train de nous dire. Dieu est en train de dire, lorsque vous donnez, vous allez prendre un peu de ce que vous avez comme sécurité, vous allez le donner. Et vous pouvez imaginer des personnes qui sont vraiment attachées à cette sécurité, est en train de dire, ouh! Et vous savez, quand on donne, il y a toujours quoi, un petit pincement, hein, d'un coup que j'en manque. Là. Vous savez, mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que on est en train d'exercer le muscle de la foi. Et comme je dis, no pain, no gain, ça nous fait mal, mais on est en train justement de grandir dans la foi. Et le Seigneur est en train de nous enseigner ici que oui, je suis votre source de sécurité, alors tiens, donnez-moi-en de ce que vous avez. Est-ce qu'on va lui faire confiance? Mais la parole de Dieu nous dit que nous pouvons lui faire confiance. Dans Psaume 23, le Seigneur a dit, David a dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Et dans l'Ancien Testament, on a, vous lisez des belles histoires avec Israël, comment le Dieu de l'éternité prend soin d'Israël. Et même il le dit dans ce texte ici, « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Il a donné la manne du ciel, il y a l'eau qui est sortie du rocher. Dieu a pris soin de son peuple. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même chose aussi dans le Nouveau Testament. Dans le contexte des Philippiens, ils avaient fait un don, ils avaient donné de l'argent à Paul. Et Paul est en train de le rappeler encore une fois. Vous m'avez donné, mais écoute, Dieu va pourvoir à vos besoins. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, pas selon ses miettes. Tout lui appartient. Et quand vous obéissez à sa parole, il va pourvoir justement à vos besoins. Autre chose qui nous encourage alors à donner et qui exerce notre foi parce qu'on donne, on a moins, mais c'est parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Et je pense qu'Adama, il a mentionné le texte ce matin. Et quel bel encouragement pour nous. Dieu ne dit pas plus que juste que je vais pourvoir à tes besoins, mais qu'est-ce que tu donnes? Je vais le prendre et je vais le multiplier. Et voilà, voici. Quand j'ai médité ce texte, j'ai dit, waouh! Waouh! Quelle puissance dans ce texte. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais qu'est-ce qui arrive après? Et Dieu peut combler, vous combler de toutes ses grâces. Regardez bien. Afin que possédant toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez quoi encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et vous avez peut-être entendu justement l'illustration. Moi j'ai une pelle, Dieu a une pelle. Je prends ma pelle, je prends de ce que Dieu me donne, je mets dans sa pelle. Et Dieu prend sa pelle, il remet dans ma pelle. Mais la pelle de Dieu est beaucoup plus grosse que la mienne. Alors, je donne, mais Dieu m'en donne en abondance, puis je peux donner, puis Dieu m'en donne. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Fais-moi confiance avec vos biens, votre argent, parce que vous êtes en train d'exercer quoi? De la foi. Et j'aime ça quand je vois mes enfants qui sont généreux. Parce que quoi? Il est en train de me faire confiance. Et une grande foi, qu'est-ce que ça fait? Ça exalte Dieu. Ça l'honore. Ça lui dit que tu es digne, justement, de confiance. Je vous donne juste deux illustrations ici. Il y avait un homme qui s'appelle Sethusted, millionnaire pour Dieu. Il avait hérité d'une fortune. Mais il y avait un appel d'aller servir Dieu sur le champ missionnaire en Afrique. Et c'est sûr ce qu'il a fait, il a tout donné. Tout donné aux œuvres de charité. Puis il est allé servir le Seigneur. Par la foi, disant au Seigneur, je te fais confiance de prendre soin de moi. Alors je ne vous dis pas de prendre tout votre argent puis tout donner au Seigneur. Mais je peux vous dire juste quel point une grande foi peut aller. Extraordinaire. Et l'autre chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a caractérisé le Seigneur Jésus-Christ sur la croix? Qu'est-ce qu'ils ont dit du Seigneur? Il s'est confié en Dieu. Ça, c'était son trademark, sa marque de commerce. Quelqu'un qui s'est confié dans son Père, qui disait à son Père, tu es digne de confiance. Et le Seigneur a donné plus que de l'argent, il a donné sa vie. Et regarde ce que le texte dit dans Psaume 16, 9, 10. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Même si je donne ma vie, le Seigneur a dit à son Père, je te fais confiance. Oh, on a tellement de misère à donner un petit peu d'argent parce qu'on... Oh, Dieu! Mais le Seigneur a dit, non, je te donne tout. Parce qu'il s'est confié dans le Père. Tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Quel modèle pour nous. Et comment est-ce que le cœur du Père a été justement touché? Et comment est-ce que Dieu a été glorifié par son Fils qui s'est confié? Même les personnes qui se moquaient, ils ont dit, il s'est confié en Dieu. Mais oui! Notre foi, une grande foi, nous pousse à confier en Dieu. Deuxièmement, Seigneur, je reprends le texte, si vous regardez votre texte encore, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier dans les synagogues et au coin du rue. Une deuxième manière maintenant, non seulement en donnant, se discipliner en donnant pour faire grandir notre foi, mais se discipliner aussi en priant. Et le Seigneur a donné ici aussi la bonne manière et la mauvaise manière. Il dit, non, faites pas comme les hypocrites. Qu'est-ce que les autres ils font? Ils se promènent, ils se mettent au coin de la rue, ils vont prier, ils vont faire des longues prières, un peu comme le pharisien qui était là dans le temple et qui disait, « Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme les autres hommes, je donne la dîme, je jeûne et ainsi de suite. » Puis, non, ne faites pas cela. Le Seigneur dit, quand tu pries, tu entres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Et là, tu vas passer du temps avec ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, avant de regarder justement comment est-ce que fait grandir notre foi, j'aimerais juste vous encourager dans le sens que la prière, qu'est-ce que la prière fait pour quelqu'un? Quand nous prions, Dieu entend. Psaume 4, 4 d'ici, l'Éternel entend quand je prie. Alors, on est assuré qu'on ne dit pas des paroles dans l'air. Le Dieu de l'univers, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, incline son oreille pour m'écouter, moi qui suis comme un ver de terre, une fourmi. Peux-tu imaginer, Dieu dit, je vais écouter ce que tu es en train de me dire. Et ça me touche vraiment que Dieu nous entend quand on prie. Aussi, quand nous prions, Dieu fortifie. Et dans nos situations difficiles, la prière, Dieu était capable de nous fortifier émotionnellement, même physiquement, émotionnellement, spirituellement. La prière fait ces choses. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermé leur cœur. Dieu bénit. Si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les Dieu donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et aussi, Dieu agit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, selon ma volonté, je le ferai. Alors ça, c'est une manière de voir que la prière est importante. Mais j'aimerais ce matin parler justement de la prière qui est en Matthieu chapitre 6. Vous savez, vous et moi, et c'est bien aussi parce que la Bible nous dit de prier en tout temps. Et on peut prier ce qu'on appelle en anglais « on the go ». Vous savez de quoi je parle? Vous êtes au volant, là? On prie. C'est correct. Vous êtes en train de cuisiner, des femmes, vous êtes dans la cuisine, vous priez, c'est correct. Mais Matthieu chapitre 6 est en train de nous dire, ça c'est une prière qui exige du temps. Dieu, il touche à notre argent, mais il touche aussi à une autre chose qui nous est précieuse, notre temps. Vous avez souvent entendu dire que, oh, j'aimerais avoir plus de temps, mais on a tous juste 24 heures. Et aujourd'hui, dans notre société, avec tellement de choses, peut imaginer, pas tellement pour les retraités, là, ceux qui sont, mais c'est pas tout à fait vrai, là. Mais j'imagine des jeunes mères, puis des jeunes pères de famille, des enfants, toutes des choses en dehors de l'école. Peux-tu imaginer des activités qu'on remplit, on remplit dans une journée? Ça finit plus. Alors, où est-ce qu'on va avoir du temps pour aller dans une chambre, à part, tranquillement et passer du temps avec Dieu? Mais ça, c'est un acte de foi. De savoir que si je donne du temps à mon Dieu, j'en manquerai pas dans la journée. Je veux raconter un témoignage personnel. Quand j'étais à Montréal, je travaillais au début dans un hôpital psychiatrique et le Seigneur m'avait conduit justement de quitter cela pour retourner aux études. Et j'étais justement allé à l'université pour justement faire un diplôme en enseignement. Et j'avais fait un pacte avec Dieu. Je savais que j'allais être très occupé, beaucoup de devoirs et ainsi de suite, mais j'avais dit au Seigneur, à l'époque, j'allais à une assemblée anglaise, je ne manquerai jamais, je vais te donner du temps, Seigneur. Il y avait une réunion le mercredi. Et j'avais dit au Seigneur, je manquerai pas cette réunion. Je serai toujours prêt. Qu'importe ce que j'ai le lendemain, qu'est-ce qui m'attend, quoi soit, je serai toujours là. Et je me rappelle une fois, j'étais justement devant une situation le lendemain. Il fallait que j'enseigne, j'étais stagiaire, j'enseigne une classe. J'avais fait mes préparatifs, mais il manquait un petit peu de matériel. J'enseignais sur le système solaire et je voulais avoir un visuel pour rendre ça plus intéressant aux enfants. Et là, il y avait justement la réunion de prière, et là, je voyais que j'aurais pu justement dire, ah, tu sais, je m'en vais à la bibliothèque, je vais chercher ma télé. Non, je suis allé. Lendemain, j'arrive à l'école et j'étais dans la salle des professeurs. Et là, j'entends de parler entre les profs et je racontais à une prof comment est-ce que dans quelques instants, avant que la cloche sonne, j'allais enseigner aux élèves. Mais je dis, il semble que j'aurais voulu être capable d'avoir un support visuel. Et là, le prof m'a regardé et m'a dit, écoute, est-ce que cela peut t'aider? J'ai commandé un film sur le système solaire, mais c'est trop avancé pour mes élèves. Est-ce que tu veux l'avoir? Mais merci Seigneur, Seigneur pourvu. Et aussi, c'est incroyable, dans la même journée, les professeurs ont déclenché une grève à midi. Moi, j'étais stagiaire, je n'étais pas obligé de participer à la grève, et là, je quittais l'école pour aller chez moi à midi. J'avais tout mon après-midi off. Vous voyez comment le Seigneur? Tu pries ton père, tu lui donnes du temps, et le Seigneur a dit, je te le rendrai. Alors, il m'a rendu le matériel, il m'a donné aussi un après-midi congé. Quand j'ai terminé mes études, il y avait des professeurs qui disaient, bon, okay, on a fini notre formation, mais il n'y a pas d'emploi. Il y avait une surplus d'enseignants à Montréal. Et tout le monde disait, mais il n'y a pas d'emploi, c'est bien d'être diplômé, mais il faut qu'on aille à l'extérieur, dans les régions éloignées, si on veut trouver un emploi. À l'époque, il y avait une dame chrétienne qui faisait la suppléance dans une des meilleures écoles à Montréal. Et à un moment donné, le directeur de l'école téléphone à la dame pour lui demander de venir faire la suppléance, mais elle n'était pas disponible. Mais elle dit, je connais quelqu'un. Alors, elle a donné mon nom au directeur. Et le directeur m'a appelé, puis il a dit, veux-tu faire la suppléance? Mais je t'arrive à faire la suppléance. Et là, c'était la fin d'année, mois de juin, au début du mois de juin. Et là, pour trois semaines, j'ai enseigné, bon, il y avait des cours comme géographie que j'aimais pas, art plastique que j'aimais pas, en tout cas, mais j'ai fait ma suppléance. Et là, c'était le 23, l'école terminée, le directeur m'a fait venir dans son bureau. Puis il m'a dit, écoute, ce que j'ai vu, j'aimais, aimerais-tu revenir l'année prochaine, mais au mois de septembre? Il m'a dit, oui, bien sûr. Il dit, écoute, quelle matière aimerais-tu enseigner? Ah, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Il dit des maths. Alors, vous voyez, il dit, tiens, signe ici. Ça, c'est à l'époque où est-ce que le directeur avait beaucoup de pouvoir. Là. Il ne peut pas faire ça aujourd'hui. Le syndicat, là, mais en tout cas, ça, c'est l'époque. Et là, je peux vous dire, j'ai signé mon contrat. Je m'en allais en vacances. J'avais déjà un emploi qui était réservé et j'ai enseigné la matière que j'aimais le plus, les mathématiques. Vous voyez comment le Seigneur est fidèle? Et j'étais le premier dans ma classe à trouver un emploi quand tout le monde disait, il n'y a pas d'emploi à Montréal, il va falloir que vous alliez à l'extérieur. Le Seigneur te le rendra. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, juste en terminant. Notre argent, notre temps, deux choses extrêmement importantes. Mais le Seigneur a dit, donnez-moi un peu, faites-moi confiance. Faites-moi confiance pour vos finances, faites-moi confiance pour votre temps, je te le rendrai. Et si vous n'avez pas l'habitude de donner, j'aimerais vous encourager ce matin à commencer à exercer justement le muscle de la foi. Le Seigneur est débiteur de personne. Et je ne vous dis pas de donner 10% comme tu as résolu dans ton camp, mais commence à donner. Commence à donner aussi du temps au Seigneur et vous allez voir comment le Seigneur est tellement gracieux, comment est-ce qu'il est capable de nous bénir même au-delà de ce qu'on peut demander ou penser. Ce matin, si vous êtes ici, et vous savez, souvent, j'ai parlé d'argent. Et on entend souvent dire dans les milieux, les gens qui veulent attaquer les chrétiens, va pas là, tout ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Mais ce n'est pas le but de ça ce matin. Je m'adressais aux chrétiens, ceux qui connaissent le Seigneur. Mais si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ ce matin, il y a quelque chose de beaucoup plus important que votre argent. C'est votre âme. Et le Seigneur Jésus-Christ a payé justement pour votre âme et c'est ce qu'il veut en premier. J'ai une mauvaise nouvelle et j'ai une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme la parole de Dieu nous dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nos âmes, à cause du péché qui est rentré dans le monde, nos âmes sont, comment dirais-je, devant Dieu, nous sommes perdus. Et il y a une conséquence à cela, c'est sa mauvaise nouvelle, parce que Dieu est saint, Dieu est juste, c'est la mort et l'enfer. Il ne faut pas se cacher de cela. Et la parole de Dieu dit, « Qui dira que j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? » Personne. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aime nos âmes. Et Jésus-Christ sur la croix est allé payer la dette justement pour que mon âme puisse être purifiée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et nous avons chanté de cela ce matin. Alors, si vous êtes ici, vous ne connaissez pas le Christ, ce n'est pas votre argent qui est important. Ce n'est pas justement votre temps, c'est votre âme devant Dieu qui est importante. Et le sang de Jésus-Christ qui est versé sur la croix par amour pour les pécheurs. Et si nous venons au pied de la croix et nous disons, « Seigneur, oui, je suis un pécheur, je suis perdu, tu es juste de me condamner. » Mais merci que Jésus-Christ a pris ma place. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et un homme qui vient au pied de la croix et dit, « Seigneur, je me repens, mais je crois dans ton sacrifice. » Le Seigneur pardonne, le Seigneur purifie, le Seigneur sauve. Et nous pouvons passer l'éternité avec le Seigneur pour justement l'adorer. On n'aura pas besoin de la foi maintenant. On va la voir face à face. Si vous n'avez pas fait cette décision, je vous invite, je vous implore de le faire ce matin, avant qu'il ne soit trop tard. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta patience avec nous, Seigneur. Nous confessons que nous sommes des gens de peu de foi. Mais merci que tu nous donnes dans ta parole les moyens de nous approcher de toi pour dire, Seigneur, je te fais confiance. Et nous avons parlé justement de te faire confiance avec nos finances, de te donner, Seigneur, pour te montrer que nous te faisons confiance. De passer du temps, Seigneur, avec toi, pour te montrer que nous te faisons confiance. Seigneur, qu'il en soit ainsi, parce que tu es prêt à nous bénir abondamment pour cela. Et pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, ouvre leurs yeux, donne-leur cette révélation qui vient de toi, afin qu'ils puissent accepter Christ comme leur sauveur, afin qu'il ne soit trop tard. Sépare-nous avec ta bénédiction. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.